Tous les pavés, Annick Chuin.
Bienvenue à vous. Le Sahel, vaste région dont nous avons généralement une image floue, voire floutée, région arpentée par les hommes et leurs négoces, irriguée par des cultures et des langues diverses, mais traversée aussi par des trafics illicites et des actes de violence dont les médias se font largement l'écho. Reda Benkiran, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans le studio de la RTS à Genève. Vous êtes sociologue, consultant auprès d'organisations internationales à Genève. Dernièrement, vous avez dirigé une recherche, rédigé un impressionnant rapport sur, je cite, « la radicalisation et l'extrême violence au Sahel », enquête menée pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Centre pour le Dialogue Humanitaire de Genève. Alors, quel est l'enjeu de cette recherche d'abord et de ce rapport ?
L'enjeu de cette recherche, c'était une demande émanant des Nations Unies de connaissances fondamentales sur ce qui se joue actuellement au Sahel, qui est un espace très étendu et stratégiquement aussi entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique, et qui est l'objet, enfin, aujourd'hui, d'une déstabilisation qui est à la fois provoquée par des facteurs géopolitiques externes. Je pense notamment à la destruction de l'État libyen suite à l'intervention de la communauté internationale, entre guillemets, la déstabilisation du Maghreb, l'Afrique du Nord qui ne se fait pas, qui ne se construit pas au niveau économique et politique, et ça influe sur la déstabilisation du Sahel. Et puis des trafics internationaux comme le trafic de drogue, par exemple, qui aujourd'hui, qui vient de l'Amérique du Sud, passe par le Sahel. La question aussi de la migration clandestine, le mouvement des migrants. Donc il y avait la volonté de savoir ce qui se jouait, mais c'est ça qui est très intéressant, selon la perception des populations qui sont les plus exposées à ces phénomènes de violence, de radicalité, de trafic dans les régions transfrontalières des différents États de la région.
Donc, une enquête et des personnes interrogées. Vous êtes, avec toute une équipe, on va en reparler, Reda Benkiran, vous êtes allé à la rencontre de 800 personnes. Une occasion pour nous aussi, en lisant le rapport, ce rapport qui est vraiment passionnant, d'approcher une région, je le disais, mal connue. Et évidemment, notre émission va permettre aussi d'arpenter, nous aussi, cette vaste région. Un mot encore sur vous, Reda Benkiran. Vous êtes l'auteur de 4 ouvrages, dont le dernier, Islam à la reconquête du sens, apparu au Pommier il y a quelques mois. Vous êtes genevois d'origine marocaine. Sur votre site, j'ai appris entre autres que vous aviez été le secrétaire de Ben Bella dans quelles années ?
Tout à fait. Dans les années de son exil, j'ai eu le grand privilège de faire mes études à Genève, à l'Institut d'études universitaires du développement, aujourd'hui IHEID, et en parallèle de faire mes travaux pratiques en étant au service d'un ancien prisonnier politique. Il a fait 23 ans de prison, un révolutionnaire, et donc j'ai beaucoup appris durant toutes les années 80, quand l'Algérie sortait du monopartisme. Donc jusqu'à à peu près 1995,
Déjà vous vous êtes frotté en étudiant à la réalité, au terrain déjà.
Exactement, et avec Ahmed Ben Bella, j'ai été en contact avec tous les mouvements radicaux qui comptent dans la planète, qui venaient vraiment rendre visite, prendre conseil, discuter avec à la fois un révolutionnaire, un rebelle, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup avancé pour les droits de l'homme, pour la défense des peuples amérindiens, la cause écologiste. Donc c'était aussi quelqu'un qui était un sage, c'est-à-dire la prison a fait de lui un véritable penseur.
Alors, ça m'amène à ma dernière question pour cette introduction, Reda Benkiran. J'ai vu aussi, toujours sur votre site internet, que vous vous définissez comme un chercheur libre et autonome. C'est une précision qui vous tient à cœur ?
Oui, parce que nous vivons une époque qui, malheureusement, c'est le règne un peu de la publicité, des groupes de pression, et j'ai toujours tenu malgré, disons, mes différentes expériences, j'ai travaillé pour des organisations prestigieuses, différentes structures dans différents pays, mais j'ai toujours tenu à être indépendant et à garder un recul critique. Je vous parlais d'Ahmed Ben Bella, c'est mon mentor, ça, voilà, mais j'ai, à un moment donné, il a fallu prendre aussi son autonomie, développer un regard critique sur son propre itinéraire, sur sa propre vision politique, et je tiens, voilà, je veux dire, c'est mon luxe, c'est mon, voilà, c'est cette capacité de ne pas être quelqu'un. Vous savez, il y a toutes sortes de phénomènes de mercenariat intellectuel, de ces experts qui viennent commenter l'actualité, qui vous analysent les différents groupes armés, qui vous traitent de l'islam de manière comme une branche, disons, une sous-discipline de la criminologie, etc. Donc c'est très important, le fait d'être indépendant et de pouvoir aussi proposer des éclairages qui vont à contre-courant des récits consacrés ou du storytelling dominant.
Alors aujourd'hui, c'est du Sahel que vous allez nous parler, à travers aussi la voix, bien sûr, des Sahéliens. Le Sahel tel qu'il est perçu et vécu par ces populations. On se retrouve dans un instant, tout de suite après la carte sonore, signée Marie-Claude Cudry.
Le Sahel, c'est une bande qui traverse le continent africain, séparant le Sahara aride au nord de l'Afrique de la forêt humide au sud. Les États concernés sont Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, les deux Soudans, le nord du Nigeria, le Burkina Faso et le Sénégal. Les populations sont clairsemées sur des territoires délaissés et difficiles à surveiller, et les souverainetés nationales ne peuvent plus être exercées, du moins sur la totalité de l'enveloppe tracée par les frontières historiques.
Cette situation a permis aisément à des groupes terroristes armés de sévir dans ces territoires et de s'adonner dans le même temps à toutes sortes de trafics.
Se sont installés au Sahel depuis des dizaines d'années des bandes de trafiquants, des bandes qui pratiquent des réseaux, ou des groupes extrémistes ou terroristes.
Ces mouvements ont une certaine autonomie. Ils reposent sur des chefs qui sont assez indépendants, qui sont des personnages souvent un peu mystérieux, de la biographie est mystérieuse.
Près de 2 ans après l'enlèvement de Sophie Pétronin au Mali, son fils Sébastien est parti sur ses traces dans l'immensité du Sahel.
Le désert, c'est un territoire immense, mais paradoxalement, beaucoup de gens se connaissent et on peut avoir des informations même sur un territoire qui se situe très loin d'ici.
La zone là, c'est la zone des trois frontières, Burkina, Niger, Mali. Donc la coopération entre ces différents pays pour patrouiller ensemble dans ces zones, ça va faire de telle sorte que la sécurité va régner dans ces zones.
Une carte sonore signée Marie-Claude Cudry, violence extrême au Sahel, Reda Benkirane. Qui en sont les auteurs? Quels sont les protagonistes? En fait, qui fréquente? Qui est dans ce Sahel immense?
Le mot Sahel vient du mot arabe Sahel, qui veut dire vraiment rivage. Donc, c'est un espace immense qu'on pourrait croire sorti de l'histoire, comme avait dit Sarkozy en faisant son discours
en Afrique,
son fameux discours catastrophique à Dakar. Mais en réalité, quand on plonge son nez dans les livres d'histoire, et ça, c'est accessible à tout un chacun, depuis, voilà, de se rendre dans une bibliothèque et de piocher un peu, on se rend compte que cette région a une profondeur historique, a une richesse culturelle, que pas simplement des sociétés sans écriture ou des sociétés primitives, une longue tradition savante, des bibliothèques, les bibliothèques de Tombouctou par exemple, un islam qui est ancien, qui est ancré dans le sunnisme, malikisme. Voilà, c'est une zone où les premières populations, disons, extérieures à la région sont les populations arabo-berbères qui circulaient, donc 8e, 9e siècle. Et donc l'islam s'est propagé à la faveur des commerces, des commerçants. Il y a eu toutes des expériences étatiques extraordinaires, des empires, des royaumes, des cités-états, des théocraties. Bref, une grande profondeur. Et je pense que le hiatus fondamental, ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que nous avons des états dans la région qui sont des états post-coloniaux, mais qui n'ont que très très peu de lien avec cette profondeur historique et cette tradition étatique ancrée dans le passé.
Alors, vous avez partiellement répondu à ma question, partiellement parce qu'on va y revenir. C'est vraiment très intéressant de suivre ces populations. Mais, je le disais tout à l'heure, nous, la perception que nous avons, je parle de nous occidentaux qui lisons les journaux, c'est la violence qui se déroule dans cette région Sahel. J'aimerais, en quelques mots, que vous nous disiez, au fond, qui est là, des forces armées, des forces internationales, des terroristes? Qu'est-ce que c'est que cette violence qui fait l'objet de ce rapport?
Quelles sont les forces en présence? C'est difficile d'en parler. Justement, le but de l'étude n'est pas de donner un aperçu, disons, sécuritaire, militaire, une vision policière de la situation. Et justement, ce que nous montrent les réponses des personnes que nous avons rencontrées, c'est qu'en fait, il y a des groupes qui se sont saisis de la violence à un moment donné de l'histoire de ces différents pays. Et aujourd'hui, depuis quelques années, ce sont des mouvements, disons, qu'on va appeler des mouvements religieux armés ou d'inspiration religieuse, qui sont au Mali, qui sont à la frontière de quatre États, Cameroun, Nigeria, Tchad et Niger pour le cas de Boko Haram. Donc c'est des mouvements qui se présentent comme des djihadistes. Ça, c'est les mouvements internes. Alors, ils génèrent de la violence, ils s'expriment par la violence. Vous avez l'intervention aussi occidentale. Nous savons tous que non seulement la France est sur le terrain depuis 2012, depuis 6 ans au Mali. Et d'ailleurs, je pense qu'au bout de 6 ans, on peut essayer de tirer le bilan. Est-ce que la présence internationale militaire dans cette région a fait reculer la violence ou, au contraire, l'attise? Et ça, je pense que on ne peut pas juste se contenter d'observer ce qui se passe. Je pense qu'à un moment, il faut faire un bilan critique de la situation. Donc, il y a l'acteur international. Et donc, la perception des habitants sur cette violence, d'un côté, ils répriment, les violences faites aux civils.
Les enlèvements d'occidentaux.
Les enlèvements d'occidentaux, toutes sortes d'abus. Et d'un autre côté, imperceptiblement, il semble légitimer une certaine violence face à la présence militaire étrangère. Donc, c'est des réponses qui ne sont pas ou blanc ou noir, c'est très nuancé. Et je pense que l'enjeu de ces perceptions, c'est de montrer toutes les nuances qu'il y a dans la perception de la violence. Nous, on voit ça de manière assez schématique, je dois le dire, vu de loin.
D'où cette enquête d'ailleurs et ce rapport international qui vous a été commandé. Donc, rapport que vous avez présenté tout récemment à Genève, c'est une enquête originale, probablement d'ailleurs même un peu risquée. Quelle en a été la méthode? Vous avez dit c'est une entreprise collective. Alors comment concrètement ça s'est passé?
C'est le Centre pour le dialogue humanitaire qui m'a confié ce mandat, qui était, je le dis très simplement, une mission quasi impossible dans le sens où on nous demandait de faire un travail dans des zones extrêmement dangereuses, de constituer des équipes d'enquête et dans un temps extrêmement limité de 20 semaines, 5 mois. Ce qui est dans le temps de consacrer à la recherche, quelque chose d'impossible, parce qu'une recherche, ça prend 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour vraiment pleinement se déployer. Mais ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est qu'on m'a donné carte blanche pour concevoir cette méthode. Et j'ai fait 2 choix risqués. C'est que le premier, plutôt que j'aurais pu me satisfaire de travailler avec des consultants qui ont leur 4x4, leur questionnaire, prêt à aller sur le terrain, faire un questionnaire très rapidement et finir la mission et rentrer tranquillement, confortablement à la maison. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux travailler avec des chercheurs universitaires de ces différents pays.
Donc nationaux.
Des nationaux. Et d'allouer le budget, je tiens à saluer aussi le peuple du Japon qui a financé ce projet, donc d'allouer les fonds exclusivement à la recherche et exclusivement à la recherche universitaire de ces pays. Et ça, c'était un choix risqué. Il a fallu passer beaucoup de temps pour sélectionner les équipes, d'une part.
Ça, c'était 59 enquêteurs, c'est pas mal. Voilà. Oui.
Et je dirais vraiment que c'est un exemple de recherche, de coopération internationale. À la fois, cette recherche a déployé, vraiment, elle est pensée de l'intérieur par des chercheurs de ces pays. Très rapidement, c'est Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina, Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria. Voilà. Et à la fois, nous nous sommes accompagnés aussi de consultants internationaux et nationaux.
Donc, oui, on peut en citer 2 d'ailleurs, Jean-François Bayard et puis Pierre Azan, qui est genevois d'origine également.
Donc, au niveau international, nous avons eu des conseillers internationaux, des gens très pointus qui nous ont fourni des études thématiques.
À partir de la parole recueillie des Sahéliens.
Tout à fait. C'est-à-dire que, au départ, je ne voulais pas que nous allions travailler avec des grands spécialistes de ces questions, qui ont déjà écrit des livres, qui ont déjà des analyses et des schémas mentaux préétablis. Je voulais trouver d'excellents sociologues, anthropologues, qui puissent faire un effort de parcimonie théorique pour arriver, rencontrer, lier langue avec les enquêtés. On nous avait mis en garde, on nous avait dit, vous savez, le simple fait de venir avec un papier et un stylo, c'est dissuasif. Vous devez mener des entretiens et après en faire rendre compte. Vous devez partager le tabac. On va se méfier de vous. Donc, oubliez d'utiliser un enregistreur.
Le micro, oui.
Dans la manière de vous allez formuler les questions, il ne faut pas qu'elles soient trop directes. Il ne faut pas toucher des questions trop taboues. Et dans la réalité, nous avons été tellement préparés. Donc, on a travaillé. Donc, cette méthodologie devait être à la fois commune, donc aux 8 pays, pour avoir des éléments de comparaison pour les Nations Unies. C'était important d'avoir de travailler à l'échelle régionale de 8 pays, 8 équipes, avec une méthodologie commune, mais à la fois, c'était impossible d'avoir strictement le même format homogène, parce que la situation est radicalement différente d'un pays à l'autre.
Et donc, des enquêteurs qui parlaient les langues, qui connaissaient les cultures, qui avaient une approche très, très différente, on l'a compris. Une entreprise, je le disais, certainement pas sans danger. La région est dangereuse.
La région est dangereuse. Et je tiens à préciser aussi un fait remarquable aussi, qui distingue, singularise cette recherche. C'est que nos enquêteurs sont partis sur le terrain, munis de toutes les autorisations, bien entendu, mais sans jamais avoir été escortés par une force militaire ou sécuritaire. Je précise que dans toute cette région, et spécialement dans la zone où sévit Boko Haram, toutes les ONG occidentales, le CICR ne circule pas, ne peut pas circuler sans être accompagné d'une force militaire ou sécuritaire. Dans le cas de nos équipes, nous avons mis en jeu leur peau. Je tiens vraiment à rendre hommage
au courage des enquêteurs
et à l'implication de nos équipes qui sont allées à la rencontre des habitants. Alors, ce que je vous avais dit, on nous avait mis en garde sur la manière de les approcher, mais le résultat, c'est que quand on est arrivé sur le terrain dans des régions éloignées, très éloignées du centre de la capitale, les gens disaient, vous avez fait tout ce chemin, vous avez pris tous ces risques pour nous parler, alors que jamais personne n'a cherché à nous demander ce qu'on pensait ou de quoi on souffrait, et de quoi on se plaignait. Et donc, on a salué cet effort. Et c'est tout le contraire, c'est-à-dire que nous avons pu utiliser l'enregistreur, le inscrire. Au contraire, les gens étaient très volubiles.
Ils avaient envie de parler pour une fois qu'ils étaient écoutés.
Pour une fois qu'il y avait cet effort d'écoute et d'empathie, donc ça a été l'occasion, voilà, de pouvoir recueillir une parole extraordinaire. Et donc on croule sous les données. Et donc après, très rapidement, après l'enquête, vu le timing très très court qui nous avait été imposé, il a fallu faire cette fois-ci un effort d'interprétation. Et là, nos équipes ont conceptualisé ce que les perceptions des habitants, les mots qu'ils utilisent. Mmh. Et là, je pense que nous produisons quelque chose qui est à la fois qui révèle des vérités un peu embarrassantes pour les États de la région et peut-être aussi pour la communauté internationale, mais aussi des formulations et des concepts. Et je pense qu'aussi, ce qui apparaît très fort dans ce rapport, et je tiens à préciser que ce rapport et le rapport international et 8 rapports pays sont disponibles sur un carnet de recherche sahelradicalhypothèse.org.
Oui, on mettra le lien sur notre propre site.
C'est librement accessible. Ça a été rédigé de manière simple, sans jargon.
Confirme.
C'est adressé aux décideurs, aux représentants des États, aux membres d'ONG, mais aussi aux médias pour se saisir de ces questions. Et un des points forts qui est sorti, c'est que clairement, les questions de sémantique, de symbolique, les mots qu'on emploie sont les enjeux de la conflictualité aujourd'hui au XXIe siècle, pas simplement au Sahel. Je vous rappelle l'affaire de caricature, Charlie Hebdo, etc. Les termes que nous employons sont vraiment minés. Et tout un effort...
Nous, occidentaux.
De part et d'autre.
De part et d'autre.
Les enjeux, c'est très important de comprendre...
Djihad, terrorisme...
Voilà, etc. Et donc, une partie de la solution pour désactiver cette violence, c'est de travailler sur ces aspects de ce que j'appelle la sémantique, dont la signification, et la sémiotique, dont tout ce qui est signe. Donc, signification et symbolique sont vraiment aujourd'hui les enjeux.
Vous nous donnez un exemple, Reda Benkirane?
Écoutez, nous sommes très en retard par rapport à ces groupes djihadistes que l'on prétend comme des barbares, mais qui sont les enfants de de notre modernité et qui maîtrisent, qui ont un art consommé de la communication. Donc si on étudie, on comprend la manière dont ils communiquent, la symbolique qu'ils utilisent, les moyens de technologie de l'information. Par exemple, dans cette région, il n'y a pas d'électricité, l'Internet est fragmentaire, mais les images, les symboles, les discours circulent sur des cartes magnétiques de téléphone, par exemple. Et donc, si l'on comprend que la communication est vraiment un enjeu, on peut travailler. Prenons la question du djihad, par exemple. Ce qui est ressorti très fort parmi nos enquêtés, c'est que, voilà, en Europe, on pense que le mot djihad est condamnable, que quelqu'un qui se proclame comme faisant le djihad,
le
mot
djihad, on le voit arme au point.
On voit arme au point. J'ai rencontré des lettrés religieux qui étaient pressés par des chrétiens dans le cadre de dialogues interreligieux de condamner ces actes et ils disaient on ne peut pas condamner le djihad fait partie de la foi musulmane. Et encore faut-il comprendre ce qu'est le djihad. Le djihad signifie force, pression extérieure. Je traduirai en termes de sciences sociales, c'est un signifiant flottant. Il peut dire tout et son contraire. Notre erreur fondamentale, c'est de faire le jeu de ceux qui se proclament djihadistes. Notez que le mot a changé. Par exemple, avant, les résistants s'appelaient des moujahidines. Le FLN algérien, c'était des moujahidines. Ça a changé, c'est un peu comme l'islamisme par rapport à l'islam. Ce isme qui accentue le caractère idéologique d'une lecture très martiale du djihad. Mais notre erreur, c'est de laisser ce mot juste aux mains de ceux qui utilisent la violence. Mais ce que disent les gens, on dit, on peut pas condamner le djihad. Le djihad, moi, je fais le djihad, je suis père de famille, je dois assurer la survie de ma famille.
C'est un djihad.
Je fais un djihad personnel. C'est le plus grand djihad. Donc, quand, sur le plan de la sémantique, on pense qu'il faut, bannir ce mot et que ce mot est condamnable, on fait une erreur flagrante parce que, disons, cette notion est fondamentale pour 1,6 milliard d'individus.
Mais ça veut dire aussi qu'on réduit l'islam à la violence,
voilà,
du même coup.
Voilà, exactement. Donc, ce que j'ai aussi eu comme parole très très vive, on dit, quand on veut faire la paix, on sort le livre, le Coran. Quand on veut faire la guerre, on sort le livre, le Coran. Donc, un des propos d'un enquêté mauritanien, c'était de dire, l'islam subit, ce n'est pas l'islam qui dicte. Quand on comprend avec les sciences sociales ce que je vais appeler les signifiants flottants, c'est qu'on peut les gens utilisent une valeur symbolique et peuvent la charger de n'importe quel contenu, on comprend que les choses peuvent être aussi désactivées justement en travaillant sur cet aspect sémantique et sémiotique.
Alors, une des conclusions de cette enquête, il y en a très nombreuses, mais une des conclusions souligne que la radicalisation est un phénomène amené à durer, mais qu'il faut aussi noter qu'il y a une véritable citoyenneté en devenir. Comment cette citoyenneté en devenir dans cette vaste région Sahel s'exprime-t-elle ?
J'ai mentionné tout à l'heure que ces pays avaient une grande histoire, des traditions étatiques, hein, et que le drame, c'est que les États contemporains sont coupés de ce passé. Alors, c'est un espace, le Sahara, immense, aux frontières, elles aussi, flottantes.
Hein. 6 millions, plus de 6 millions de kilomètres carrés, et puis quoi, 300 millions d'habitants, en gros.
Aujourd'hui, mais c'est ça aussi un des facteurs, c'est que c'est de tout temps, le Sahel était connu comme une région relativement peu peuplée. 50 millions dans les années 1950, aujourd'hui 300 millions, ils seront 1,3 milliard au début du 22e siècle. Et ça explique aussi que la radicalisation, ce phénomène d'explosion de la jeunesse qui est majoritaire dans des sociétés qui connaissent des taux de fertilité parmi les plus hauts du monde, elle est inscrite dans ces données démographiques, le Sahel est en forte expansion démographique. Hein. Donc ça, c'est le premier aspect. Pour en revenir à la citoyenneté, donc ce qui est important de comprendre, c'est que ces sociétés qui ont une profondeur historique, un héritage culturel immense, se caractérisent, il faut le préciser, par une forme de société très, très hiérarchisée. La société sahélienne sont des sociétés vraiment à caste. Donc la hiérarchisation de l'individu fait que, quelle que soit la valeur que vous ayez, quelle que soit votre richesse ou votre devenir, on est rivé à sa condition d'origine. Donc si on fait partie des castes inférieurs, les bijoutiers, les tisserands, les ferronniers, les forgerons, vous êtes stigmatisés à jamais. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui sont complètement bouleversées, mais la structure mentale traditionnelle perdure, alors qu'on a un phénomène de jeunesse extraordinaire. des gens qui sont les enfants de notre modernité, qui manient la communication et qui ont des rêves de s'en sortir sur le plan matériel, économique, etc., mais qui sont des subordonnés socialement à un ordre traditionnel où c'est l'aîné qui est le possesseur de la richesse matérielle, de la richesse symbolique, de la parole sage, etc. Et donc, dans cette société, la citoyenneté, comment elle se déploie, elle est bloquée par ce rapport à la servilité, à l'origine de... La question de l'esclavage est une question qui est encore vivace, même si les États ont formellement interdit l'esclavage. Le dernier en date, c'est la Mauritanie au début des années 80. Sur le plan des réalités, voilà, il y a les ascendances nobles, il y a les aristocrates, il y a les castes inférieures. Et donc, l'endogamie est préférée. Donc, il y a des archaïsmes dans la tradition et ces archaïsmes sont en train de sauter. Le radicalisme, que l'on perçoit comme dangereux, c'est un modèle de fraternité.
Alors là, il faut s'arrêter à ce mot, effectivement. Si je vous comprends bien, il y a différentes formes de radicalité. Nous, le radicalisme, pour nous, généralement d'ailleurs, on l'associe à la religion, eh bien, cela veut dire terrorisme. Donc, vous dites, de ce que vous avez entendu, je le rappelle, c'est-à-dire que vous avez interrogé les Sahéliens, que la radicalité est une façon de faire la révolution.
Oui, et puis ce n'est pas si éloigné de ce que nous avons vécu comme radicalité au temps où triomphait le marxisme. Ce sont des phases historiques.
Il faut renverser.
C'est jouer un rôle moteur. Moi, je trouve que la radicalité, on en a plus que jamais besoin. Mai 68, c'était une forme de radicalité positive. Elle a apporté énormément de choses. Elle a aussi son versant sombre.
Le féminisme.
Le printemps arabe. Voilà. Donc, derrière ce mot aussi, il y a aussi beaucoup de notions. Donc, il y a des formes de radicalité qui sont nécessaires. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que le monde va très mal, que nous devons changer de mode de vie au niveau planétaire, et nous avons besoin aussi d'adopter un changement radical. Donc, c'est pas la radicalité. La radicalité, c'est le retour aux racines. C'est d'une certaine manière faire une coupure avec des racines, mais c'est une autre manière de faire racine. Et donc, là aussi, c'est ambivalent. Alors, ce que l'on combat, c'est l'aspect violent, nihiliste, la violence illégitime ou qui s'en prend aussi.
Ou qui est armée.
Mais qui s'en prend aux civils ou qui s'en prend à celui qui n'est pas musulman ou à celui que l'on veut. Voilà. Donc, tout cela est extrêmement condamnable et les habitants interviewés font la différence. Pour la majorité, une des réponses massives parmi les 700 personnes qui ont été enquêtées et interrogées, c'est que pour l'essentiel, plus de 40% des réponses disent que les djihadistes sont des bandits. C'est des bandits, c'est des...
Vous précédez ma question, parce que j'allais dire, mais alors, si on fait autant de nuances, comment faire la différence, effectivement, entre une révolution légitime, ou en tout cas, et pacifique, et puis le banditisme?
Il faut faire confiance aux gens qui sont exposés, qui vivent la situation, le terrain. C'est pas depuis Genève, depuis Paris, que l'on peut décider qui est le légitime détenteur.
Mais parfois, c'est les deux à la fois. Non, une violence armée qui a une certaine légitimité dans la volonté de changement.
Mais les habitants nous disent, voilà, il y a des djihadistes qui sont venus, par exemple au Mali, dans un premier temps, les mouvements djihadistes ont été perçus de manière positive comme venant instaurer une justice que l'État était incapable de fournir, mais à partir de conflits locaux, conflits pastoraux entre sédentaires et nomades, autour de l'eau, autour de vols de bétail, les exactions aussi dénoncées par les habitants du mouvement séparatiste Touareg. Et donc, dans un premier temps, ce qui a parlé pour les habitants, c'était ce sens de la justice. Alors, à tort ou à raison, mais cette notion de justice a fait sens et ils sont venus dans une situation d'arbitrage pendant un moment donné. Et donc, ils font la différence. Les habitants vous disent clairement, il y a des bandits parmi ces gens-là. Même des bandits ont rejoint ces mouvements, le Mujao, par exemple, etc. Mais il y a aussi des gens sincères, des gens avec qui nous avons lié des liens d'amitié, des liens matrimoniaux que nous connaissions. Rappelez-vous, les mouvements djihadistes étaient dans la région depuis longtemps. Et ce n'est que depuis 2012 qu'au Mali, que la situation est devenue violente. Et c'est là où les djihadistes sont entrés en jeu. Mais par exemple, dans le cas du Mali, depuis la population est fatiguée de cette guerre et cherche une négociation, une paix. Et elle demande à l'État malien de dire... Négocier avec les djihadistes, ce sont des Maliens comme les autres. Ils n'appellent pas à la sécession. discuter avec ceux qui sont, disons, respectés et qui n'ont pas commis des crimes, etc. Mais là, comme me disait Isaïe Dounion, l'anthropologue qui a mené l'enquête au Mali, me dit le Mali est devenu un sac à problèmes et nous avons commencé à recevoir, à importer toutes sortes de conseils et la France ne veut pas dialoguer avec les islamistes radicaux. Une des réponses qui est venue dans la perception sur ces questions, c'est que les habitants interrogés dans leur majorité condamnent les actes de violence et de terrorisme. Mais ils ne condamnent pas les acteurs et les actants. Dans notre perception européenne occidentale, c'est exactement le contraire. On ne discutera jamais avec un islamiste. Et à mon avis, nous avons payé le prix de cette vue un peu absolue. Rappelez-vous l'expérience algérienne en 1992, victoire du Front islamique du salut, coup d'État et une décennie sanglante. Regardez ce qui s'est passé aussi en 2013 avec le renversement du président égyptien des frères musulmans. Et regardez la situation des droits de l'homme et l'état des libertés en Égypte aujourd'hui. Je pense que il faut respecter le choix des peuples, le choix des habitants. Et s'ils voient qu'il y a des interlocuteurs parmi, disons, les différents acteurs, pourquoi se figer, voilà, condamner les actes? Voilà, ça c'est une réponse qui vient fort du terrain. On condamne les actes, mais pas les acteurs.
Réponse effectivement dérangeante, Reda Benkirane, puisqu'on a tendance à vouloir ou à admirer les chefs d'État qui disent pas de quartier, on discute pas avec ces gens-là. Prenons l'exemple de l'otage occidentale française, Sophie Pétronin, qui est entre les mains d'un groupe extrémiste depuis plusieurs années, qui est d'ailleurs en très mauvaise santé. Le président Macron apparemment ne veut pas discuter, ce que la famille lui reproche. Les Sahéliens, eux, diraient, mais parmi le groupe qui l'a enlevé, il y a des interlocuteurs, vous pourriez discuter avec eux.
Je vais vous donner la réponse claire et immédiate, et elle est aussi accablante pour les chancelleries occidentales. Jusqu'en 2012, les groupes djihadistes circulaient dans l'espace sahélien et faisaient essentiellement du rapt d'otages occidentaux. Et pendant des années et des années, ils ont perçu des millions, des dizaines de millions et probablement des centaines de millions d'euros comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont armés. Mais ils ne causaient pas de troubles, de violences dans la région. C'est une fois qu'il y a eu la déstabilisation de la Libye que les Touaregs qui étaient surarmés en Libye ont été encouragés de se replier dans la zone Touareg du Malais en les encourageant à favoriser une autonomie. Que, disons, la situation est devenue confuse et armée, et c'est là où les djihadistes sont rentrés dans le jeu du conflit armé. Mais pour répondre à votre question, pendant des années, avant l'escalade de la violence, ces mouvements existaient uniquement par le rapt d'otages occidentaux et percevaient des sommes colossales de la part de ces États, simplement de manière...
Sous la table.
Sous la table, voilà.
Oui. Voilà. Alors, rapport passionnant, je le disais, qui nous plonge dans cet espace méconnu et trouble qu'est le Sahel, trouble à nos yeux en tout cas, un espace que vous allez nous raconter et analyser, Reda Benkirane. Tout de suite après, alors je vous propose un instant de détente musicale et un morceau que vous avez choisi. Pavé, nous sommes en compagnie du sociologue Reda Benkiran qui a dirigé tout récemment une enquête autour de l'extrémisme violent dans les régions transfrontalières du Sahel et la perception qu'en ont les Sahéliens. Nous y reviendrons, mais d'abord, Reda Benkiran, vous avez choisi cette musique d'Ambrose Aki Muziré, un trompettiste, il est quoi, américain ?
Américain
d'origine ?
De père nigérian, donc... C'est une des grandes intelligences du jazz contemporain. Le jazz, c'est quel rapport avec ce que nous évoquons ?
Avec le Sahel, oui.
Et ce que nous évoquons, c'est simplement que je pense que le jazz est une offre, une pensée ou un savoir qui a la capacité de s'adapter à toutes les cultures, à toutes les époques. Le dialogue avec le classique, le traditionnel, le moderne, le contemporain, avec l'africain, avec le scandinave, avec l'Orient. C'est quelque chose qui m'inspire énormément en tant que, voilà, comme approche d'anthropologie à une ère où justement il y a le brassage, il y a la mondialité, mais il y a aussi les acrimonies autour des différences, de l'identitaire. Voilà, ça me parle beaucoup, ça m'inspire.
La musique vous inspire, Reda Benkiran, vous le sociologue, vous le philosophe aussi, enfin en tout cas vous avez fait des études poussées de philosophie également. La musique vous inspire et j'ai cru comprendre que vous prépariez un nouveau livre, on va y consacrer quelques secondes, un nouveau livre. Alors là, je suis encore plus étonné que le jazz, c'est Beethoven. Hein.
Oui, ben, comme vous avez la capacité de parler, de créer un climat très propice. Je crois que je me suis avancé, mais c'est une bonne manière de le faire. Je travaille sur un nouveau projet, mais
c'est pas encore un livre, c'est un projet.
En parlant maintenant, ça veut dire que je ne peux plus faire marche arrière.
Alors, dans 2 ans, vous venez ici avec un livre autour de la sonate pour piano numéro 29, c'est ça?
De Beethoven.
Pourquoi? Mais plus sérieusement, vous avez travaillé, parce que les auditeurs vont croire qu'on se moque un peu. Pas du tout. Vous avez travaillé sur cette sonate. Vous avez discuté avec un interprète dont le nom m'échappe.
Giovanni Bellucci.
Voilà, à la Villa Medici.
C'est une expérience de pensée et d'écriture. C'est pas si éloigné. Beethoven était un révolutionnaire. Voilà quelqu'un qui a produit une œuvre qui est peut-être encore plus universelle que la Bible ou le Coran, qui ne connaît pas la cinquième symphonie, les quatre notes. Et c'était un homme qui a vécu une période un peu similaire à la nôtre, 1810, 1820. C'était une phase où l'Europe aspirait à la révolution, hein, très déçu par le devenir napoléonien, l'empire, le côté despotique, la violence et la guerre, mais plein d'aspirations, d'émancipation pour les peuples, et sa musique exprime cela aussi.
Eh bien, on se réjouit, Reda Benkiran, de vous entendre plus longuement nous parler musique, mais retour plus précisément à cette enquête dont vous avez dévoilé les résultats récemment à Genève, enquête, je le rappelle, commandée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Centre pour le dialogue humanitaire. Une enquête qui a mené 59 experts nationaux sur le terrain pour recueillir la parole de quelques 700-800 Sahéliens à propos de l'insécurité et de l'extrémisme violent dans la région. Vaste région, vous nous le rappeliez tout à l'heure, que vous décrivez, j'aime beaucoup l'expression, comme un espace de percolation. Ça veut dire quoi? Que les frontières sont poreuses?
C'est un espace d'entre-connaissances. Les gens parlent plusieurs langues. Ils circulent de tout temps, voilà, dans cet espace. Et donc, les frontières sont souvent, la plupart du temps, artificielles, hormis, voilà, des frontières naturelles, des fleuves, changement de climat, etc. Mais fondamentalement, c'est un espace ouvert. Et aujourd'hui, l'enjeu, parce qu'on le voit avec la question de la migration, et on pourra en parler, le Sahel, en forte expansion démographique, tend à devenir... Et il faut se préparer à ça, la rive sud de l'Europe et du bassin méditerranéen. Et c'est pour ça que cette zone, dans cette phase actuelle de mondialité, va jouer un rôle déterminant. Donc il faut vraiment, nous devons gagner à connaître ce qui se joue, la profondeur historique, les attentes de ces peuples, qui sont des peuples très mobiles, très... Voilà, dans une fluidité,
C'est une richesse et ça peut être un danger. Ces frontières poreuses aussi, ces nouveaux événements violents qui s'y déroulent. Mais frontières poreuses, on imagine bien sûr le nomadisme. On va voir que le nomadisme est en période de rétrécissement, voire d'écroulement. Mais d'abord, c'est des exemples très concrets. Il y a ceux qui bougent aussi, mais il y a ceux qui bougent pas et qui sont à cheval sur deux frontières. Il y a des maisons. On a encore un exemple ici entre la Suisse et la France, mais ça devient très rare. Une maison, où la chambre à coucher est dans un pays et puis l'autre dans et puis la cuisine dans un autre pays par exemple, ou alors une ligne d'électricité qui est tirée d'un pays par
Absolument.
L'autre pays,
ou bien un village deux villages qui ont le même nom parce que c'est la même parenté qui les a créés. Donc c'est un espace de l'espace transfrontalier, bon, on connaissait un peu à Genève, voilà, la région de Genevoise, c'est un espace de producteur de richesses. Les gens circulent, commerce, etc. Donc ça, c'est l'aspect positif. Donc voilà, des liens d'entre-connaissances.
Et ça, c'est un aspect qu'on oublie un peu, donc toute cette richesse culturelle, économique même, richesse économique du Sahel. Parce que nous, ce qu'on sait du Sahel, c'est que c'est un des pays les plus pauvres du globe et que c'est une région assistée.
C'est une vision un peu
réductrice.
Réductrice. Voilà, par exemple, pendant longtemps, la Libye était un lieu d'émigration et donc c'était un espace très important de circulation. La Libye, a offert la possibilité aux populations du Tchad, du Niger et d'autres de pouvoir migrer, de pouvoir travailler de manière saisonnière, de revenir, d'investir leur région d'origine. Vous avez la circulation de produits subventionnés, provenance d'Algérie, etc. Il n'y a pas que l'aspect, disons, de trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Il y a l'aspect positif d'une économie informelle qui pourrait aussi se formaliser. C'est-à-dire, on gagnerait à comprendre comment fonctionnent les zones transfrontalières à la faveur, par exemple, de régions riches comme, par exemple, la région limanique. Ça serait intéressant de faire...
Ou la Franche-Comté,
Franche-Comté, ouais. Voilà. Il y aurait des leçons et des synergies à créer pour comprendre comment formaliser cette économie informelle qui est positive et qui permet aux gens d'assumer toutes sortes de risques et d'insécurités, mais pas simplement des insécurités militaires, mais insécurité alimentaire, sanitaire, l'éducation, etc.
Mais précisément, les personnes interrogées, ces sahéliens que les enquêteurs sont allés rencontrer longuement, de quoi, par exemple, ont-ils le plus peur? J'imagine qu'on a posé ce genre de questions, plus ou moins directement. De la pauvreté, du chômage, du manque de soins ou des hôpitaux qui se trouvent à des kilomètres, ou alors précisément du terrorisme, si j'ose utiliser le terme terroriste.
Là aussi, on a une réponse massive. Notre recherche était qualitative, mais vu qu'on a fait un grand nombre d'entretiens, on a des phénomènes, des réponses massives. Seulement 2% des personnes interrogées disent que l'insécurité, que le radicalisme religieux est le problème ou est la cause de leur insécurité. La majorité des gens aborde des questions économiques, des questions matérielles,
quotidiennes,
des problèmes. Et d'ailleurs, pour eux, l'extrémisme est nourri aussi de la pas du gain. C'est-à-dire que ce qui attire les jeunes dans ces mouvements, selon la perception, c'est essentiellement des perspectives pour des gens qui n'ont aucun avenir, aucun plan, aucune formation, de pouvoir rapidement gagner de l'argent. Le Boko Haram, vous entrez à Boko Haram, vous êtes un mendiant, du jour au lendemain, vous avez une moto, de l'argent, et on vous promet une femme. Ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a contrairement à nous, on joue sur nos stocks de peur avec ces questions de violence, etc. Les réponses qui nous parviennent nous montrent que ils sont prêts à supporter la violence extrême, malgré le coût terrible. Nous avons interrogé des gens qui ont perdu des frères, des maris, des enfants, etc. Donc, qui l'ont vécu dans leur chair. Mais ils expriment qu'ils sont prêts à supporter ce risque-là, pourvu qu'on leur assure un minimum de sécurité sur le plan du travail ou de l'alimentaire ou de l'éducation ou des soins. Donc, on voit qu'il y a une gestion rationnelle de la peur et de l'insécurité. On peut prendre des risques sur certains volets et accepter ou vivre avec cette violence, mais encore faut-il que nous ayons une base pour pouvoir vivre et pour pouvoir aussi un minimum évoluer dans le cadre de la transfrontalière.
Tout à l'heure, Reda Benkiran, vous nous parliez de l'émergence, malgré tout, d'une citoyenneté, malgré ou à cause peut-être aussi du carcan social et culturel des populations, je dis bien des populations du Sahel. La radicalisation, alors avec toutes ses formes, c'est aussi une manière une possibilité de changer sa vie.
Oui, absolument. C'est simplement Dans quel état est-il possible de tenir les jeunes qui représentent l'écrasante majorité, qui sont les plus instruits, encore à l'état de cadets sociaux, comme disait Jean-François Bayard, sans les consulter sur l'avenir du pays, sur les grandes décisions politiques, etc. La radicalité, dans certaines régions, je vous disais, elle permet de faire que les gens soient frères entre eux ou citoyens. Dans des états où malgré tout, par exemple, si vous êtes originaire de basse caste, vous pourriez être par exemple un savant religieux, il est inconcevable que vous puissiez diriger la prière ou que vous puissiez représenter l'ensemble de la communauté nationale du fait de votre origine. Ces nouvelles expressions de l'islam, ce qu'on dirait de manière plus générale salafiste ou frériste, et dans leur phrase plus radicale djihadiste, pour eux, c'est un autre modèle qui, justement, est en train d'établir une sorte de modèle horizontal. Et donc, c'est en ce sens que la radicalité, c'est comme un pharmacon. C'est à la fois le poison et le remède. Ça peut être un destructeur de citoyenneté, le cas de Boko Haram, par exemple, dans son expression la plus vive. Et ça peut être aussi un accélérateur de citoyenneté parce qu'il y a de vraies questions auxquelles l'État doit répondre. Et je pense aussi que, d'une certaine manière, les intellectuels africains devraient se saisir de ces questions, parce que, pour le moment, elles sont débattues sur le terrain par la violence, mais elles restent à être pensées et maîtrisées sur le plan, je dirais, cognitif.
Alors, cela nous amène, Reda Benkirane, à la fin de cette émission d'une part, mais à la fin de votre rapport aussi, où vous faites des propositions, on ne pourra pas toutes les énumérer, elles s'adressent aux différents acteurs nationaux et internationaux. Bien sûr, là vous avez dit proposer, enfin pousser l'intelligentsia africaine à réfléchir à ce type de questions. J'imagine aussi pousser les autorités religieuses à réfléchir. C'est peut-être les premières qui doivent faire d'autres propositions à ces jeunes qui cherchent à vivre, tout simplement, à vivre relativement bien. Et puis probablement, et cela nous intéresse très directement, puisque c'est le lien entre les Occidentaux et puis par exemple cette région Sahel, ce sont les médias. Qu'est-ce que, à travers ces réponses des Sahéliens, vous recommandez par rapport aux médias ?
De se saisir de ces questions, de faire ce que vous faites aujourd'hui tout de suite.
Mais c'est-à-dire d'écouter.
D'essayer d'approfondir cette question de la sémantique et de la sémiotique, de déminer ces mots chargés, d'essayer d'écouter ceux qui vivent, qui sont les plus exposés, d'organiser des émissions au niveau de radio locale, de radio nationale, de radio internationale, sur ces questions du religieux identitaire, le nouveau paysage religieux en Afrique, la violence, essayer de faire cette perception et de faire participer les gens et de donner à voir aussi.
Faire participer les gens. Parce que des émissions, il y en a beaucoup.
Oui. Mais notre approche qui prédomine, c'est justement une approche descendante d'experts ou d'experts, soit militaires, sécuritaires, de politiques, qui croient savoir, ce qu'il faut instruire comment on déroule toute une vision, etc. Alors que là, c'est le contraire qu'il faut. Il faut faire remonter de la base, les bruits de la forêt sociologique de ces régions, et d'entendre ce que nous disent les gens, qui sont directement plongés dans une réalité qui est extrêmement, des fois, tragique, mais qui est aussi toujours porteuse d'espoir. Il y a toujours cet élan vital pour construire l'avenir, pour propager la société, pour faire qu'elle soit, ce fameux mot, résiliente. Ils détiennent des sources de la résilience, et il y a l'aspect médiatique, mais aussi à l'adresse des religieux, c'est aussi de développer aussi une réflexion sur une théologie africaine, de favoriser aussi les différentes formes de réunion des différentes, élites religieuses des différents pays, et d'essayer de faire ce que fait par exemple le Conseil œcuménique des Églises à Genève, de s'organiser en forme d'organisation non gouvernementale, favoriser la convivialité des échanges, l'interreligieux, la reconnaissance de l'autre. Ça, c'est aussi un aspect qui est important. Notre rapport aussi propose un certain nombre de recommandations aux politiques, aux sécuritaires, etc. Mais là, effectivement, c'était plus important de mettre l'accent sur les médias, sur le rôle des religieux et sur les penseurs africains. Il y en a il y a d'admirables consciences africaines, mais qui, malheureusement, je trouve, se posent trop de questions sur décoloniser la pensée ou les rapports post-coloniaux à la France ou à la langue française, mais c'est pas tellement ça dont j'ai entendu parler de la part de
sur
de,
le
de,
terrain de dans cette région du Sahel. Merci Reda Benkiran. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aller consulter ce rapport international et puis aussi les rapports nationaux. Le lien sera mis sur notre site internet, le site internet RTS sous les pavés. Nous terminons cette émission en musique comme toujours, et puisque Reda Benkiran, vous avez évoqué votre chantier d'écriture et de réflexion autour de Beethoven, eh bien voici la sonate pour piano 29, opus 116, sonate dite Hammerklavier. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you.
Sous les pavés, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission vous était proposée avec la collaboration de Marie-Claude Cudry à la réalisation. Christiane Gachet était à la technique. Aurélie Roulavis et Jérôme Ruffini à la documentation. Au micro, Annick Chuin. La semaine prochaine, Martine Béguin sera en compagnie d'Axel Kahn, biologiste et généticien qu'on ne présente plus et qui vient de publier chez Stock un ouvrage autobiographique qui évoque, entre autres, Axel Kahn est très lyrique, vous le savez, qui évoque ses origines, sa foi, la perte de la foi, ses deuils, l'éthique et certainement beaucoup de choses encore à suivre donc la semaine prochaine.
Cendrillon descend de son carrosse à l'Opéra de Lausanne les 23, 24, 25 et 28 novembre et cette Cendrillon-là plaira aux grands comme aux petits. Œuvre légère et cocasse, Cendrillon fait la part belle à la fantaisie et à une brillante vocalité. Pauline Viardot, célèbre diva et égérie de nombreux compositeurs du 19e siècle, en a écrit le livret et la musique. Retrouvez les plus belles œuvres lyriques dans À l'Opéra, le samedi à 20h sur Espace 2.
Après les informations, retrouvez Jazz avec Yvan Hichère. Espace 2, il est 18h.